poste national sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV, il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Valorisation du potentiel géologique, les acteurs du secteur minier d'ici et d'ailleurs en mode de conclave et exposition à Yaoundé. La rencontre était ouverte ce jour par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Désormais, une école supérieure polytechnique à Akono, dans le département de la Meufouï à Akono, son inauguration ce jour par l'archevêque de Yaoundé était couplée au lancement des manifestations du soixantenaire du collège Stoll. Bientôt un casque intelligent pour aveugles, le projet Locus en cours d'expérimentation à Yaoundé permettra aux déficients visuels de vivre sans aide. En sport football éliminatoire de la Coupe du Monde, les Lions indomptables du Cameroun bientôt en stage dans la perspective des matchs contre le Cap-Vert et l'Angola. Leur entraîneur a visité ce jour le stade de Ngouaïkélé à Yaoundé, retenu pour les entraînements. Bienvenue au journal. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, appelle à la valorisation du potentiel géologique du Cameroun et de l'Afrique centrale dans un cadre mutuellement bénéfique. Le temps est venu de passer du potentiel au réel, a-t-il précisé. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, il a procédé ce jeudi à l'ouverture officielle de la réunion des ministres en charge des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, conjointement avec la 4e édition de la Convention internationale des mines et exposition du Cameroun. Compte rendu, Laurentine Bokono.
Ils sont venus, ils ont vu, ils ont touché du doigt des lingots d'or de 2 kg d'une valeur de 80 millions de francs CFA chacun. Tous des échantillons de calcaire, de bauxite, de manganèse, de lithoine et j'en passe. Suffisant pour faire entendre chants, trompettes et tambours. Le Cameroun est un véritable scandale minier qui s'enorgueillit ainsi d'accueillir au même moment et sous le même toit deux événements d'une importance capitale. Émerveillé par la pertinence des thèmes choisis, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, s'en réjouit.
Deux thèmes seront au centre des travaux. Le premier était ainsi libellé, je cite, « Le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, les Caraïbes et les Pacifiques pour une meilleure stratégie de développement des minéraux critiques de la transition énergétique. » Le second porte sur « De la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. » L'importance de ces deux thèmes n'est plus à démontrer. Dans un contexte marqué par une demande de plus en plus croissante des matières premières, il me semble à ce stade que la transformation des dix ressources devient pour nous une question incontournable et l'industrialisation de nos pays une nécessité.
Création d'emplois, partenariat, collaboration doivent être une responsabilité partagée dans la prise des décisions.
L'accent devrait être mis sur la transparence des revenus de l'industrie extractive et la définition d'une stratégie de coopération internationale qui serait profitable à tous. En effet, pour les pays producteurs que nous sommes, il est d'un grand intérêt que les négociations avec les opérateurs des industries extractives débouchent sur une sécurisation des revenus substantiels en compensation de l'exploitation de notre capital naturel.
Au palais des congrès des lunes des collines qui surplombent la cité capitale, les oriflammes de 79 pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique flottent pour célébrer la nouvelle vision d'exploitation des mines. Ce nouvel engagement démontre à suffisance la volonté des pays en voie de développement de relever tous les défis pour faire du développement des industries extractives une priorité.
Il est à noter que la 4e Convention internationale des mines et expositions du Cameroun est une initiative du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui vise à mener des réflexions en vue de valoriser le riche potentiel en ressources géologiques et minières de la sous-région. Le directeur général de la Sonamine souligne les enjeux de cette rencontre.
Ce type d'événement, c'est d'abord une rencontre des experts et des professionnels du secteur minier, pas seulement de la mine, mais de toute l'industrie minière. C'est un partage d'expériences avec les autres sociétés minières qui opèrent au Cameroun et à l'international. Et à côté de ce partage, c'est également de montrer le savoir-faire. Nous sommes venus présenter ce que nous faisons au quotidien. Nous avons des lingots d'or issus de notre activité de terrain. Nous avons apporté du lithium parce que les Camerounais entendent parler du lithium, mais n'ont jamais vu du lithium. Nous avons apporté des échantillons de lithium. Et également, nous avons apporté des carottes issues des forages que nous avons effectués hier dans notre permis de calcaire de Sikoum. La Sonamine a mis en évidence 40 millions de tonnes de calcaire dans cette localité.
Dans la suite du journal, le droit des affaires en Afrique est-il en train de militer pour la responsabilité sociétale des organisations? La question est au centre des discussions au deuxième jour du Forum international du droit et du chiffre organisé à Yaoundé. Viviane Foul.
La RSE, la responsabilité sociétale des organisations, voilà un sujet qui suscite encore beaucoup de passion au sein des experts. D'un côté, certains pensent que malgré la complexité du concept, le terme « responsabilité à lui seul » qui le compose mérite une attention nécessaire.
Driss Akoni, je suis expert comptable diplômé, Côte d'Ivoire. Quand on a des inondations, quand on a des sécheresses, quand la pauvreté est à notre porte, la question de la responsabilité sociétale s'impose.
La responsabilité sociétale des organisations, oui peut-être, mais certains experts appellent à un enthousiasme mesuré, justifiant du fait que certains paramètres nécessitent d'abord d'être étudiés. Docteur Rachel Claire Okani, juriste, ancien vice-recteur.
On a mis la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu commencer par la formation. Former les gens, leur dire c'est quoi la RSE, quels sont les avantages, les inconvénients, comment ça se passe. Et là, les gens allaient commencer à être réceptifs.
C'est une évidence. Le monde des affaires bouge et est en perpétuelle mutation. Mais les experts présents au Forum international du droit et du chiffre sont tous d'accord sur le fait que l'Afrique ne devrait pas emprunter le TGV de l'économie sans évaluer tous les défis qui l'interpellent.
Les contribuables de la région du centre se forment et s'informent sur la déclaration annuelle des revenus des particuliers. C'est au cours d'une campagne de sensibilisation organisée par le Centre régional des impôts 1. Tous les trois centres des impôts de cette circonscription fiscale étaient parcourus par son chef, Mme Evelyne Vogobina, qui appelle les contribuables à se rapprocher de leur centre avant le 30 juin prochain. Reportage Arlette Amadou.
Après la promulgation de la loi des finances en début d'année, la Direction générale des impôts a jugé utile de sensibiliser les contribuables, notamment les salariés des secteurs publics et privés, propriétaires immobiliers et bénéficiaires d'un revenu non professionnel sur la nécessité de déclarer les revenus annuels. Cette formation vient à point nommé pour expliquer aux partenaires de l'État comment comprendre les modalités de déclaration et de paiement.
Ce que je retiens en particulier, c'est l'insistance de Madame le régional sur la nécessité de déclaration qui est très importante.
Il est bien que cette fois-ci l'administration fiscale prend la peine de commencer le conseil avant de reprendre la répression. Ça nous galvanise, nous autres aussi.
L'administration fiscale joue un rôle d'accompagnateur. Emeline Vogobina, chef de centre régional des impôts.
Au regard de l'intérêt, la grande attention particulière que les contribuables y ont accordée, l'administration fiscale est disposée à les accompagner jusqu'au bout.
Au regard du délai fixé au 30 juin prochain, il était de bon ton que les contribuables soient à la page.
20h passées de 9 minutes, vous êtes sur le poste national de la CRTV émettant de Yaoundé. Les activités du projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire sont lancées au Cameroun. C'était ce jeudi en Gaoundéré, dans la région de la Damawa, sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbaye-Roubé, en présence de la représentante et directrice pays du programme alimentaire mondial au Cameroun. Les précisions de Ibrahim Mohamed Abassi.
Ce projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire contribuera à la stabilisation alimentaire et nutritionnelle. Une réponse du gouvernement du Cameroun en collaboration avec le Programme alimentaire mondial pour relever et renforcer la résilience économique et climatique des populations. Objectif, garantir un accès à une alimentation saine et nutritive, souligne la représentante et directrice pays du Programme alimentaire mondial au Cameroun, Wanja Karia. Pour relever ces défis, la Banque mondiale a mobilisé environ 59 milliards de francs CFA, révèle le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Gabriel Mbaye-Roubé engage tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet à se mobiliser pour assurer le mieux-être des populations. Le ministre Gabriel Mbaye-Roubé a visité quelques exploitations agropastorales avant d'assister à la distribution des repas aux élèves de l'école publique de Beka Matali, un projet qui consiste à nourrir les apprenants à base de produits locaux portés par le Programme alimentaire mondial. Ibrahim Mohamed Abassi, Ngaoundéré, CRTV.
Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural souligne le bien fondé de ce projet pour les populations. Gabriel Mbaye-Roubé au micro de Ibrahim Mohamed Abassi.
C'est un projet complet qui, à la fin, soutient aussi le gouvernement dans l'analyse de la situation de la sécurité alimentaire, dans la mise en place d'un plan national de réponse aux crises alimentaires et dans la mise en place d'une cellule d'alerte et de veille pour prévenir les crises alimentaires. Et nous sommes contents du travail qui est fait sur le terrain. Certes, la région de l'Adama n'est pas directement interpellée par les crises alimentaires, mais il y a les retombées des déplacés internes et des crises sécuritaire dans les pays voisins qui font que la région de l'Adama se retrouve avec des populations en situation vulnérable.
Gabriel Mbaye-Roubé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. En politique, élection présidentielle de 2025, gare aux acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ils seront traduits devant les tribunaux. La mise en garde est du ministre de l'Administration territoriale. Dans un communiqué, Paul Atanganji rappelle à l'ordre les leaders politiques qui menacent de mettre le pays à feu et à sang si leurs intérêts ne sont pas satisfaits. C'est au travers de messages tendancieux, anti-républicains et même irrévérencieux vis-à-vis du président de la République diffusés ces derniers jours. Aucun écart ne sera toléré. Constance.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 19 mai, l'honorable Cabral Ibi du PCRN parle du Cameroun qui aurait franchi, je cite, un nouveau palier de sauvagerie et de chaos généralisé de fin de règne. Fin de citation. Le député de la Nation, au sujet du président de la République, parle d'un vieil homme et de quelques membres du gouvernement, comme je cite, des sauvages qui profitent de la fatigue du président Biya. Fin de citation. Ces derniers, je cite, tiennent à abuser de lui en le maintenant à un poste où il ne tient plus. Fin de citation. De son côté, le professeur Maurice Kamto du MRC, dans une vidéo, dit qu'en 2025, je cite, s'ils essayent, en référence aux gens du pouvoir, ça prendra ce que ça prendra, les survivants arrangeront le pays. Fin de citation. Des messages vidéo que le ministre de l'Administration territoriale qualifie de tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer des remous sociaux à des fins égoïstes. Et Paul Atanganji de rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le code pénal. La surenchère verbale prenant des proportions inquiétantes alors que le Cameroun se prépare pour l'année électorale de 2025. Le ministre de l'Administration territoriale rassure cependant les Camerounais que le scrutin présidentiel à venir se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Les acteurs politiques dont les officines brandissent l'épouvantail du chaos et qui entreprendraient une action dans ce sens répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, rappelle la tutelle des partis politiques.
En religion, l'archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Barga, en visite pastorale à Akono, a procédé à l'inauguration de l'école supérieure polytechnique Saint-Joseph et au lancement des festivités marquant le soixantenaire du collège Stoll. C'était au cours d'une messe en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Laurent Richard Omba. Détail, Julien Gambi.
Il souffle comme un parfum de bénédiction dans la localité d'Akono, cette terre bénie qui abrite désormais la nouvelle école supérieure polytechnique Saint-Joseph et le collège Stoll. Deux événements qui coïncident cette année avec le centenaire de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs et le centenaire du petit séminaire Saint-Joseph par où est passé en son temps le plus illustre des Camerounais, le président de la République Paul Biya. Tout en rendant grâce au Seigneur, l'ordinaire du lieu a magnifié ce grand projet qui porte sur l'histoire commune de ces deux instituts. Pour lui, l'école supérieure polytechnique qui s'ouvre au monde va largement contribuer au développement de cette commune. Le collège Stoll d'Akono, créé de l'élite et du savoir depuis 60 ans, est appelé, quant à lui, à devenir un collège scientifique, a ajouté l'archevêque métropolitain de Yaoundé, pour qu'il l'archidiocèse de Yaoundé se félicite de cette rampe de lancement pour un bel avenir dans la localité d'Akono. A noter la présence à cette messe pontificale du représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur de Yaoundé 2, le professeur Laurent Richard Omba et de Madame Zongo, préfet de la MEFU à Akono. Collège historique d'Akono, Julien Gambi, CRTV.
Les TIC au service des personnes déficientes visuelles et malvoyantes. Un casque intelligent pour personnes aveugles est donc en cours de conception à l'IAI Cameroun. Le projet dénommé Locus vient d'être primé à Yaoundé pour sa pertinence car il va offrir aux cibles diverses opportunités d'interagir avec leur environnement sans forcément demander de l'aide. Agnès-Sylvie Nanzama.
Locus vient du grec qui veut dire œil.
À l'origine du développement de Locus, un événement émouvant qui a marqué son chef projet, Stéphane Amombo Ngongo.
J'étais en taxi. Un aveugle stoppait le taxi. Le taximan l'a traversé sans écouter la destination qu'il a donnée. Ça m'a choqué. Avec mon équipe, on essayait de faire des recherches pour essayer de voir comment on pouvait résoudre ça.
Détenteur d'un bac A, Stéphane bénéficie alors d'une dérogation spéciale du représentant résident de l'IAI Cameroun pour accéder au centre d'excellence technologique Paul Biya, filière génie logiciel, où depuis 3 ans, il en a fait son projet d'étude.
Mon but premier, c'est d'aider les personnes malvoyantes.
Locus ambitionne de donner la vue aux personnes aveugles et malvoyantes avec de nombreuses facilités au-delà de leur canne blanche.
Il n'a qu'à parler. L'intelligence artificielle à l'intérieur va répondre à ses demandes. S'il veut, par exemple, savoir où il est ou l'heure, il va dire, Sam, quelle heure est-il? Sam, où suis-je? Sam, qu'est-ce que tu vois? Pour qu'il lise ce qu'il voit de lui. Le casque a la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de proximité, la reconnaissance de visage.
Stéphane Kosso Ebenga, président du comité d'étudiants de l'IAI.
Ce casque est un peu comme un manager pour les aveugles, c'est-à-dire qu'il analyse l'environnement, qui est capable de lire une plaque devant vous.
Primé parmi les meilleurs projets du rendez-vous Tech Startup Chrono, le projet à terme aura l'aspect des lunettes connectées pour une meilleure portée. La chaire UNESCO Accès TIC d'Afrique centrale s'y intéresse d'ores déjà pour sa concrétisation.
Le ministre des Transports informe l'opinion publique nationale et internationale que sous le très haut patronage du président de la République, Paul Biya, le Cameroun va abriter le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire du 28 au 30 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Yaoundé avec pour thème le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire. Cet événement d'envergure internationale va réunir les membres de l'Union internationale des chemins de fer et les acteurs majeurs du secteur ferroviaire africain qui discuteront des enjeux et des opportunités liées à la transformation numérique du transport ferroviaire sur le continent. En sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la fièvre des préparatifs monte autour des matchs Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun. Le staff technique mis à disposition par le gouvernement était cette fin de matinée au stade de Ngouaïkélé à Yaoundé, site d'entraînement retenu pour le 11 national. Marc Brice est allé se rassurer de ce que l'aire de jeu et les autres installations sont en parfait état de fonctionnement. Le défenseur Jean-Charles Castelletto est forfait pour ses deux prochaines rencontres. Samuel Billon.
Marc Brice et l'ensemble de son staff mis à disposition par le gouvernement ont le cœur à l'ouvrage, prêts à affronter le Cap-Vert et l'Angola. Côté effectif de joueurs présélectionnés, seul Jean-Charles Castelletto est formellement forfait pour blessure en club. Marc Brice.
Normalement, le groupe a le temps le 2 juin avant minuit. Le jour après, le 3, on commence les entraînements. Jean Castelletto a été gravement blessé. Il ne va pas être prêt. C'est lui qui sort du groupe. C'est à moi de décider pendant cette semaine qui va rester dans le groupe, qui va partir.
La visite du stade de Ngouaïkélé se déroule en présence de Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le technicien belge est satisfait de l'état du stade. Pelouse, vestiaire, gradin, éclairage, tout est en parfait état de fonctionnement pour couvrir les séances d'entraînement des Lions Indomptables.
On a décidé de prendre celui parce que le terrain est déjà mieux. Le choix était bien. Je suis content qu'on ait choisi pour ce terrain. On va préparer le match comme il faut. On a vu beaucoup de matchs d'Ecap-Verde et d'Angola et on est en train de préparer une tactique pour essayer de gagner ce match.
Début du stage le 2 juin, soit 6 jours pour bâtir un groupe à la hauteur des attentes face au Cap-Vert et à l'Angola.
Vous écoutez le Poste National sur l'ensemble.
Retenir de ce journal, valorisation du potentiel géologique, les acteurs du secteur minier d'ici et d'ailleurs en mode conclave et exposition à Yaoundé. La rencontre était ouverte ce jour par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde, les Lions Indomptables bientôt en stage dans la perspective des matchs contre le Cap-Vert et l'Angola. Leur entraîneur a visité ce jour le stade de Ngouaïkélé à Yaoundé retenu pour les entraînements. 20h22, fin de ce journal technique, Célestin Gouès, réalisation Marie-Claire Messier-Kopna, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah, merci. Agréable soirée sur la CRTV.